Pilote de l'Alaska par K. A. Schwarzkopf. Deuxième cassette, première face, page 45. Tout à coup, une sonnerie retentit. Une lampe rouge s'alluma au-dessus du baraquement radio. Appel radio, dit Hassel, et il se leva la bouche pleine. Quelqu'un veut sans doute envoyer des félicitations. Faut-il leur demander d'attendre que la cérémonie ait lieu ?
N'aie pas peur, cria la mariée. Dès que je serai rassasié, je traînerai mon foutu bonhomme devant l'autel. Il ne pourra pas m'échapper cette fois.
Hassel resta un long moment absent. Il revint en courant. Tout haletant, il s'arrêta à quelques pas de la table et cria « Incendie de forêt, les gars! C'est un appel au secours de Tanana, T-A-N-A-N-A. La forêt brûle sur une longueur de 2 kilomètres à l'ouest du lac. Il y a un fort vent du nord et plusieurs villages indiens sont en danger. Il faut faire un coupe-feu entre les rivières Novitna, N-O-W-I-T-N-A, et North Fork, N-O-R-T-H-F-O-R-K. » Joseph Grumman se leva.
Nous atterrirons sur les bancs de sable du North Fork. Que tous ceux qui savent tenir une hache ou une pelle me suivent. Il y a des haches, des scies et des pelles dans le hangar numéro 2. S'il n'y en a pas assez pour tout le monde, servez-vous dans la boutique. Tout le monde peut partir. On mettra 15 hommes dans le Junker et 10 dans les Norseman, plus 4 dans les Seabee. Moi, je pars tout de suite avec le Piper pour trouver un terrain d'atterrissage. Exabard, John, prends le Junker. Aylan et Alan, chacun un Norseman. Hassel, le Seabee. La mère Chigalutna restera avec la radio.
La voix de Joseph Grumman retentissait déjà sur le terrain d'aviation. Il courait le premier chercher une hache et une pelle. Sa barbe volait au vent. Il rencontra le mari, sorti de son fossé.
« Je vous ai entendu parler d'objets à prendre dans ma boutique. C'est du vol, monsieur Grumman. Ça peut vous conduire en prison. »
Joseph Grumman, les poings sur les hanches, regardait Barter Hayes bien dans les yeux.
« Petit rat » cria-t-il. « Ah ça ! Tu es capable de rester tapis dans un buisson, mais quand il s'agit de sauver des vies humaines, tu n'oses même pas sacrifier une hache? Tu vas venir éteindre cet incendie de forêt et dans mon avion. Prends une hache et une pelle, et gare à toi si tu ne travailles pas à en avoir les mains en sang. Allez, le Piper est prêt. »
Mais, protesta le petit homme, je dois me marier.
Ne jamais assister à un mariage au milieu d'un incendie de forêt, ça sera sensationnel. Tu pourras t'agenouiller sous les arbres en feu et promettre de l'aimer pour le meilleur et pour le pire. Allez, viens !
Et prenant Barter Hayes par la peau du cou, il le poussa vers le Piper Cub. Une minute après, il décolla. La mobilisation ne se fit pas dans un ordre parfait. Les invités de la noce couraient comme des fous, bourrant leurs poches de bonnes choses avant de se précipiter vers le hangar aux outils. La mariée arracha à la dernière minute le rôti d'ours des mains des chercheurs d'or, puis elle sauta dans le Junker en criant à tue-tête
« Allons-y ! Allons-y ! Chaque minute compte !»
On laissa décoller les deux avions Norseman les premiers car ils étaient moins rapides. John s'attarda encore quelques minutes pour récupérer les retardataires. Il essaya en vain de persuader Viola Swanson qu'elle devait rester. Elle voulut venir à tout prix.
« Mais mon petit mari est là, dit-elle, le regard venimeux. Il ne m'échappera quand même pas à cause d'un incendie. » On ne roule pas Viola Swanson aussi facilement.
Le pasteur était déjà parti. Il avait été un des tout premiers à sauter dans le Norseman d'Alan. Il avait fourré sa Bible dans sa poche et ses deux mains tenaient une scie et une hache. Quand John décolla, ils étaient 19 dans le Junker, serrés comme des sardines. 10 paires de bottes au moins piétinaient le voile blanc de la Maria.
« Oh, ça n'a aucune importance, dit Viola. Comme ça, on ne verra pas les trous que feront les étincelles. Maintenant, ça va barder, les gars.
Quand le Junker décolla, John eut le temps d'entrevoir M. Alaska, qui, de sa place habituelle, levait les bras pour les saluer. Il en ressentit une grande joie. Comme les autres aviateurs de l'Alaska, il était devenu, lui aussi, un peu superstitieux. Peu après le décollage, ils aperçurent les fumées de l'incendie qui montaient vers le ciel comme un épais rideau. C'était à la fois grandiose et terrifiant. Il se trouvait encore à une dizaine de kilomètres du cœur de l'incendie. L'air était limpide les fleuves et les lacs dessinaient sur le sol un véritable filet qui s'étendait jusqu'à l'horizon.
Comment peut-il y avoir un incendie de forêt après toutes ces pluies ? Demanda quelqu'un au fond de la carlingue.
Ah, la pluie tombe de façon bien capricieuse en Alaska, répondit un autre.
Près de Minchumina, il ne pleut pour ainsi dire jamais. Les tempêtes n'arrivent pas jusque-là.
Allons-nous y installer, proposa le vieux trappeur qui avait eu un accident.
Chez nous, à Utililik, il pleut sans arrêt.
J'étais à Utililik, lavé de l'or, il y a des années, dit un chercheur d'or.
Il y avait alors beaucoup d'ours.
Des quantités, grommela le trappeur.
Une véritable vermine et énorme.
Énorme, la vermine ? Demanda quelqu'un.
Mais non, les ours. J'en ai tiré un une fois qui pesait 790 kilos. C'était un ours Kodiak, K-O-D-I-A-K. C'est une race d'ours.
Tu ferais mieux de diviser par deux, dit une voix.
Je n'enlève pas un seul kilo. Le record est de 900 kilos. Ce gaillard-là est empaillé et se trouve dans une banque, à Fairbanks, F-A-I-R-B-A-N-K-S.
Et il n'a pas essayé de piller la banque, demanda Viola.
Il a assommé et tué le caissier, dit un chercheur d'or, car il n'y avait pas de miel dans le coffre.
Tout est plus grand en Alaska que dans aucun autre pays, grogna le trappeur.
Les loups aussi, sans parler des élans.
Les mensonges aussi, souffla Viola. Tout le monde se tint silencieux pendant le reste du voyage. Le Junker survolait maintenant la forêt en feu. Il voyait les flammes sauter d'un arbre à l'autre. Les grands pins s'abattaient comme des torches. Au ras du sol, le feu se propageait comme une coulée de lave. Le spectacle était grandiose mais sinistre. Les bancs de sable du fleuve North Fork étaient recouverts d'un voile de fumée. John établit le contact par radio avec son oncle qui venait d'atterrir.
« Allô, Barberousse ! Allô, Barberousse ! Où sont les autres ?»«
Allô, John ! Allô, John !
Hassel vient d'amerrir avec le CB. Alan va atterrir et Island tout de suite après. Il faudrait que tu repères le fleuve 5 km plus au sud. » La fumée est moins dense à cet endroit-là. Tu suivras le fleuve en volant aussi bas que possible et prépare-toi à atterrir quand tu verras le premier banc de sable. Il est exactement à 2 km d'ici. Tu peux nous rejoindre dans 5 minutes.
C'était un vol à l'aveuglette, sans le secours d'aucun instrument. John fit exactement ce que l'oncle avait dit. Il regarda sa montre, décrivit un grand cercle vers l'ouest, descendit à 50 mètres environ. 5 minutes plus tard, il suivait le fleuve. Il arrêta deux de ses moteurs. La fumée s'épaississait toujours. Il dut descendre encore plus bas. Le premier banc de sable apparut et juste une minute plus tard, il vit son oncle faisant des signaux à travers la fumée.
« Tu t'en es tiré comme un grand !» cria Viola quand le Junker s'immobilisa. « Si l'avion brûle sur place, il faudra rentrer à pied et qui portera la traîne ?»
« Je vous offre mes services, dit le vieux trappeur, puisque c'est trop lourd pour vous. »
Ce fut une petite troupe fort bizarre qui prit la direction de la forêt. Tous portaient des haches, des scies, des pelles sur les épaules. Un défilé de carnaval n'aurait pas été plus cocasse. Joseph Grumman, en smoking, menait le train. Derrière lui sautillait le petit mari en habit et chapeau haute forme. La mariée, elle, l'emportait de loin sur les autres. Elle trottinait à travers les arbustes avec sa crinoline. À 6 mètres derrière elle, le trappeur portait sa traîne. Joseph Grumman avait, de son avion, repéré l'emplacement le plus indiqué pour faire un coupe-feu. Il devait suivre un terrain marécageux et ensuite un petit ruisseau. C'était le seul endroit où l'on avait une chance d'arrêter l'incendie. La forêt devenait ensuite beaucoup plus dense et si le feu s'y propageait, les villages indiens seraient perdus. Nos sauveurs calculèrent qu'ils avaient 2 heures devant eux avant l'arrivée du feu. Répartis en équipes de 5 ou 6, ils se mirent à scier, couper et creuser. Le cri «
Attention à l'arbre !»
retentissait au milieu des craquements, des éclatements et des jurons. La sueur coulait, on toussait, car la fumée et la chaleur augmentaient chaque minute. Personne ne ménageait sa peine. La mariée manœuvrait la hache comme le plus robuste des hommes. Elle crachait et sifflait. Le reste de son fond de teint fut emporté par des fleuves de sueur. Sa robe de mariée était déchirée dans le dos, la garniture de fleurs pendait comme une boule de papier mouillé au bout de ses mèches, et sa traîne avait disparu. Le trappeur l'avait coupée à la scie pour que cette femme herculéenne brandît mieux sa hache. John et le marié travaillaient côte à côte. À genoux sur le sol, le petit boutiquier serrait les dents en sciant un sapin. Il avait enlevé sa veste et le chapeau haute forme, coupé en deux, gisait derrière lui. Dans ses yeux brillait une dangereuse lumière de défi et de colère. John Grumman le voyait et souriait en douce. Le ronflement de l'incendie grandissait. Un nombre croissant d'animaux pris de panique arrivait, sans se soucier le moins du monde des hommes qui pourtant menaient grand bruit. Un élan, grand comme un cheval, faillit renverser Aylan. Un renard fit un bond géant au-dessus d'un chercheur d'or qui, assis sur ses talons, taillait un nouveau manche de hache. Des caravanes entières d'écureuils surgissaient à travers les mottes de terre et les branchages. John, qui venait d'abattre à grand-peine un arbre, se relevait en essuyant son visage quand il vit un gros ours fauve qui s'approchait à petits pas. Nullement pressé, l'ours s'arrêtait de temps en temps et semblait pousser quelque chose entre les branches. C'était un ourson, un petit gaillard enjoué, qui ne paraissait pas du tout prendre l'incendie au sérieux. John n'avait jamais vu d'ours, sauf du haut de son avion. En le voyant maintenant si près, il sentit son estomac se serrer. Ce colosse ébouriffé avait quelque chose de préhistorique, de mystérieux. Il passa, en se dandinant, à 10 mètres de lui et se dirigea directement sur Viola.
« Une ours !» chuchota John à Barter Hayes. « Elle promène bébé. »«
Qu'est-ce que tu dis ?»
Viola ne vit l'ours que lorsqu'elle faillit la renverser. Elle s'arrêta, pétrifiée, la hache levée, n'ayant Dieu que pour l'animal qui stoppa à son tour. Rabattant ses oreilles, il releva la lèvre supérieure et grogna sourdement. Le petit, par contre, se précipita joyeusement sur la crinoline et la tira en mordillant. Viola n'était pas femme à s'affoler pour rien, mais elle avait pâli. Des milliers d'histoires de maman ours furieuse lui revenaient à la mémoire. Elle savait quel danger représentait cet ourson batifolant avec sa robe de mariée. On ne pouvait pas prévoir comment cela allait finir. Personne n'avait eu le temps d'emporter un fusil. Et qui oserait attaquer à la hache une femelle grizzly en furie? Tous les spectateurs étaient figés, haletants. Le plus proche du drame, le vieux trappeur, suçait nerveusement ses moustaches. Il lui était déjà arrivé de regarder dans les yeux des ours femelles, mais alors il était armé.
« Ah, sapristi, reste immobile !» murmura-t-il à Viola. « Absolument immobile !»
L'ours se leva sur ses pattes de derrière et on vit alors combien elle était grande. Son ventre était presque blanc et ses pattes étaient grosses comme des troncs d'arbres. Elle ouvrit sa gueule d'où sortit une terrifiante menace, un bruit de bête sanguinaire qui semblait venir du fond d'un volcan en éruption. Il se produisit alors quelque chose d'inattendu. Un bruit de crépitement monta de la silhouette accroupie de Barter Hayes, et à la seconde suivante, le petit boutiquier se précipita vers l'ours, une branche de sapin enflammée à la main. Il bondissait comme un lièvre au-dessus des mottes de terre et la forêt retentissait de ses hurlements.
« Ôte-toi de là, monstre ébouriffé ! Ôte-toi de là, te dis-je, ou tu vas voir un peu !»
Et brandissant la branche enflammée au-dessus de la tête de l'ours, il fit tomber sur elle une pluie d'étincelles. La bête poussa une sorte de rugissement et mit instinctivement ses pattes devant ses yeux. Elle recula d'un pas, trébucha et tomba sur le dos. Puis elle se mit à hurler. Elle criait comme un enfant, émettant des plaintes stridentes et sinistres. Enfin, roulant sur elle-même et faisant craquer les branches, elle se releva, non sans mal, sur ses quatre pattes. Le petit avait abandonné la crinoline et cherchait, tout inquiet, sa maman.
La mère le comprit. Elle se calma et prit doucement avec la gueule son petit par la peau du cou, puis la tête haute, elle s'en fut avec son trésor et passa droit au milieu des hommes. La grande bosse poilue de sa nuque se balançait au rythme de ses pas, puis elle disparut dans la forêt, se dirigeant vers le sud. Ils étaient tous muets de surprise. Le tonnerre de l'incendie qui approchait faisait songer à un roulement de tambour. Barter Hayes gardait toujours à la main la branche en feu. Il ressemblait à un dieu de la liberté, un petit dieu de la liberté, un dieu couvert de suie et de sueur. Viola lâcha sa hache en sanglotant. Soulevant prudemment sa crinoline, elle trottina vers son sauveur.
« Barter !» criait sanglota-t-elle. « Barter, jamais je n'aurais cru, jamais je n'aurais cru que tu puisses faire une chose pareille, agir en héros, et tout ça pour moi, Barter !»
Et elle le serra contre elle avec une telle fougue que tous les deux roulèrent dans les arbustes. La branche enflammée tomba sur elle, et la crinoline prit feu.
« Avez-vous l'intention de commencer un incendie de forêt privée ?» hurla Joseph Grumman en les aidant à éteindre la crinoline. « Debout tous les deux. Il s'agit maintenant d'abattre d'arrache-pied, si nous voulons avoir une chance d'en sortir. Le feu n'attend pas, lui. »
Quand l'incendie fut sur eux, le coupe-feu était presque terminé, mais il y avait des points faibles, et Joseph Grumman avait dirigé ses hommes aux endroits les plus exposés. La chaleur et la fumée étaient étouffantes. De grands arbres s'écroulaient avec fracas, des rameaux et des branches en feu illuminaient les alentours comme des flambeaux. Les hommes peinaient comme des bêtes, étouffant avec des pelles de nouveaux foyers et abattant les arbres dont la cime flambait. Le fracas du feu, le craquement des arbres qui tombaient, le grésillement de la résine, les éclatements de l'écorce, tout se fondait en une symphonie qui couvrait les voix des hommes et les appels au secours de ceux qui, n'en pouvant plus et pris de panique, fuyait cet enfer. La situation semblait désespérée. Joseph Grumman et John travaillaient côte à côte, frappant furieusement de leurs pelles les foyers qui naissaient autour d'eux. La fumée sortait de leurs vêtements par une multitude de trous faits par les étincelles et la barbe magnifique de l'oncle était roussie sur les bords. Leurs yeux n'étaient plus que des fentes gonflées et une toux creuse et persistante accompagnait chaque inspiration.
En arrière, mugit Joseph Grumman, ce n'est plus possible.
John flanqua un dernier coup de pelle découragé sur une branche qui tombait en torche juste à ses pieds, puis il fit demi-tour et emboîta le pas à son oncle. C'était maintenant une question de vie ou de mort. Mais à peine eurent-ils fait quelques pas qu'ils furent encerclés par les flammes qui se propageaient à la cime des arbres. Dans leur ardeur, ils n'avaient pas remarqué que les autres s'étaient retirés depuis longtemps. À leur droite se trouvait un marais dont l'herbe sèche brûlait déjà, mais ils pouvaient encore atteindre une petite mare moussue du côté sud. L'oncle fit signe de la main et courut dans cette direction. Une bouffée de fumée sortit de sa barbe et avec un grand plouf, il se jeta à plat ventre dans l'eau, faisant éclabousser vers le ciel de la vase et de la mousse. John s'y précipita à son tour. L'eau, bourbeuse et froide, lui parut délicieuse. Ils plongeaient dans la boue comme des phoques pour être bien trempés. Puis ils en sortirent à quatre pattes. « Essayons encore une fois de passer, » dit l'oncle en s'ébrouant. L'eau boueuse dégouttait de sa barbe. Sur le point de partir, John se retourna. Il lui avait semblé entendre un faible cri à travers le vacarme. C'était le pasteur, le petit pasteur d'Anchorage qui avait tant tenu à se joindre au sauveteur. Il arriva en vacillant près du marais, aveuglé par la fumée, son costume noir en lambeaux. Son grand col blanc n'était plus qu'une petite boule grisâtre sur la nuque. Il était seul, seul, désemparé et complètement épuisé. John courut vers lui, le prit par la main et l'entraîna. L'ayant plongé dans la mare, il le jeta ensuite sur son dos.
« T'auras la force de le porter, John ?»
John fit signe que oui. Il courait péniblement dans l'herbe en feu. Les deux hommes respirèrent à fond avant de se précipiter au milieu des flammes. Joseph Grumman avait mis un bras autour du dos de John, l'aidant à tenir le pasteur. Ils bondissaient comme des élans quand les flammes léchaient leurs pantalons mouillés. Ils retenaient leur souffle le plus longtemps possible. L'effort était tel qu'ils avaient dans la bouche un goût de sang. Cette mer de feu n'allait donc jamais finir. Bientôt, l'humidité protectrice serait évaporée et ils brûleraient alors à leur tour comme des torches. Tout à coup, la nappe enflammée se partagea en deux et ils tombèrent sur une nouvelle mare qu'ils traversèrent tantôt en rampant, tantôt en nageant, traînant derrière eux le pasteur. Puis, brusquement, ils se trouvèrent hors du feu. Ils parcoururent encore quelques mètres avant d'avoir l'idée de ralentir la locomotive. La voix rauque, le pasteur demanda la permission de descendre du dos de John. Il était capable de marcher, disait-il, à condition qu'on le tînt par la main, car la fumée continuait à l'aveugler. Joseph Grumman s'arrêta, renifla comme un chien de chasse et leva un doigt en l'air. Il se mit à rire de tout son visage, recouvert de sueur et de suie. « Ah ! Le vent a tourné, dit-il. Il vient du sud. Pour le moment, le danger est passé. L'incendie va s'éteindre peu à peu. Les gens de Tanana se chargeront de noyer les derniers foyers et monteront la garde. Ils sont descendus sur le lac Minchumina et viennent par ici. » Les trois hommes continuèrent leur chemin, silencieux et fatigués, jusqu'au fleuve. Ils virent les avions. Les autres étaient déjà là. Assis sur les bancs de sable, ils soignaient leurs brûlures. Hassel se promenait avec une boîte de pansements. Aylan et Alan l'assistaient, les mains chargées de tubes de pommade et de rouleaux de gaz. « Je ne pensais pas du tout vous revoir vivant, » dit Hassel. « Nous vous avons cherché le plus longtemps possible. J'ai ensuite parlé avec Tanana. Le bulletin météo est excellent. Il pleuvra ce soir et il y aura probablement un fort vent du sud. Nous nous sommes donné beaucoup de mal pour pas grand-chose. » Joseph Grumman haussa les épaules. « Nous avons acquis un certain entraînement pour la prochaine fois, » dit-il. « Ce jour-là, ce sera peut-être nous qui serons menacés. » En Alaska, on ne sait jamais où le feu va prendre. C'est probablement parce que les tours de guet sont trop espacées. Tanana nous permet de rentrer, dit Alan en sautant dans son horseman. Il nous remercie de notre aide. De rien, grommela Joseph Grumman. Partons donc. Prenons la même formation qu'au départ. Barter Hayes. Où est Barter Hayes? Le petit boutiquier arrivait en vacillant. Il n'était pas beau à voir, couvert de suie et de crasse, mais il tenait Viola par le bras. De la robe de mariée, il ne restait que des fragments ravagés par le feu.
Nous montons dans le Junker tous les deux, dit Viola d'une voix rauque. Nous avons des choses à nous dire.
Les avions partaient à tour de rôle vers le sud, et celui de John décolla le dernier. C'était une troupe fatiguée et abattue, qui se serrait dans la cabine. Une pénétrante odeur de brûlé remplissait l'avion. Le ronronnement des moteurs avait un effet soporifique. La plupart des hommes ronflèrent bientôt. John frottait ses yeux gonflés pour ne pas s'endormir. Le chemin était long et passait au-dessus de contrées désertiques. Brusquement, il sursauta. La voix aiguë et impérieuse de Viola arrivait jusqu'à la cabine du pilote.
« Mais réveillez-vous donc, pasteur! Mais réveillez-vous! Pasteur, vous aviez promis !»
On entendit ensuite marmonner et bâiller. Quelqu'un grogna parce qu'on lui marchait sur les pieds et une voix infiniment lasse demanda.
« Avez-vous apporté les alliances ?»
Puis un silence. Un murmure rythmé, une voix qui montait et descendait comme à la messe. Ensuite, plus distinctement, « Veux-tu prendre Viola Swanson pour légitime épouse et l'aimer pour le meilleur et pour le pire ?» De nouveau un silence, quelques secondes seulement. John tendit l'oreille.
Oui.
Ce oui sentait l'effort. John sourit doucement. Barter Hayes était bien pris. Le col des pluies. L'Alaska est un pays dont le sol renferme des milliers de secrets. Or, cette terre est gelée la plus grande partie de l'année. La surface dégèle pendant 2 mois d'été. Elle éclate et livre alors quelques-uns de ses mystères jalousement gardés. À certains endroits, elle cache de l'or. À d'autres, elle couvre les eaux d'animaux préhistoriques, mammouths et surtout poissons géants qui possédaient à la fois des pattes et des nageoires leur permettant de vivre aussi bien sur terre que dans l'eau. Un tel pays tente les hommes qui ont le goût de l'aventure. L'or surtout les attire, et c'est là le secret du prestige de l'Alaska. Depuis que l'or a perdu un peu de son pouvoir d'attraction, la terre a livré aux hommes un nouveau trésor, l'uranium, la matière dont on fabrique les bombes atomiques et qui est utilisée maintenant pour produire de l'électricité. C'était de l'uranium que Joseph Grumman avait trouvé dans sa mine sur les pentes du mont McKinley. Mais étant donné l'importance de ce métal dans le monde moderne, il n'avait pas l'autorisation de l'exploiter lui-même ni de le vendre comme il le voulait. Il devait transporter le minerai à la fonderie d'État près d'Anchorage. Le transport s'effectuait évidemment par avion. L'endroit où se trouvait la mine se nommait Kantishna. K-A-N-T-I-S-H-N-A. C'était un des lieux les plus connus de l'Alaska. À une certaine époque, on y avait trouvé beaucoup d'or. Des milliers d'hommes y avaient vécu et leurs maisons témoignent encore de leur passage. De longues rangées de masures abandonnées, couvertes de mousse. Kantishna est une ville fantôme. Se promener dans la rue principale et lire les enseignes des anciens saloons envahis par la végétation, c'est entrer dans le monde imaginaire des livres de contes du Far West. Joseph Grumman avait donné un nouvel essor à Kantishna. Une 20aine de gaillards placés sous la direction d'un contrôleur d'État avaient extrait le minerai d'uranium pendant ce printemps tardif. Le chargement de 30 avions était soigneusement rangé dans la mine. L'État avait décidé de stopper l'extraction pour cette année. Leur tâche terminée, les 20 hommes et le contrôleur étaient repartis. Un seul homme était resté pour garder le minerai et aider à son chargement. C'était Nels Swanberg, N-E-L-S, plus loin S-W-A-N-B-E-R-G, un vieux chercheur d'or. D'origine suédoise, il était parti très jeune en Alaska. Il avait trouvé beaucoup d'or et en avait perdu plus encore. Il était maintenant aussi pauvre qu'à son arrivée, mais il avait gardé intact son courage et sa bonne humeur. « Si je recommençais ma vie, disait-il souvent, je referais les mêmes bêtises. À quoi bon amasser? L'essentiel est de vivre heureux. » Et Nels Swanberg vivait très heureux en Alaska. Kantishna se trouve au bord d'un petit lac, ou plutôt de 2 petits lacs séparés par une étroite bande de terre. Ce sont des lacs très bleus. Ils reflètent dans leurs eaux un des plus hauts sommets du monde, le mont McKinley, ou Denali, D-E-N-A-L-I, la demeure du soleil, comme l'appellent les peaux-rouges. Il dresse contre le ciel son crâne enveloppé de nuages à 6200 mètres. Il n'existe pas de montagne plus élevée en Amérique du Nord. Fin de la première piste de la deuxième cassette. Page 64, Pilote de l'Alaska par K.A. Schwarzkopf.